Pour la deuxième partie, c'est donc Brice Ménard qui est professeur d'astrophysique à Johns Hopkins et qui est en sabbatique à Paris, qui nous fait le plaisir de faire ce séminaire. Et c'est intéressant parce que vous le verrez, il a une perspective très large sur ce sujet. Et je pense qu'en ce moment, c'est ce dont on a le plus besoin. Donc merci beaucoup, Brice, de bien vouloir faire ce séminaire.
Bien sûr. Ok, bonjour à tous. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'analyse de données, de complexité, avec quelques applications en astrophysique, qui est mon domaine à la base. Stéphane Mala vous a montré tout un tas de concepts au cours de ces derniers cours, des concepts mathématiques, plein de démonstrations mathématiques qui nous permettent de comprendre comment estimer des paramètres quand on a des données et un modèle. Ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous présenter une vue un peu différente. Je suis physicien, pour moi, les démonstrations mathématiques et tout un tas de détails ne sont pas aussi importants que certains concepts qui nous sont chers en physique. Donc je vais vous montrer une histoire un petit peu similaire en mettant l'accent sur des choses un petit peu différentes et j'espère qu'en fait les deux vues des choses vont vous permettre de connecter tout un tas de choses de votre côté. Donc commençons à penser à différentes façons de considérer les données. Alors, prenons ce contexte-là. Sur mon axe des X, je vais considérer les choses qui sont très ordonnées à gauche et des choses qui sont complètement désordonnées à droite. Et mon axe des Y, c'est un axe qui va nous donner un niveau de complexité. Alors, où est-ce qu'on trouve le plus de complexité? Ce n'est pas quand les choses sont complètement ordonnées ou complètement désordonnées, la complexité, on la trouve au milieu. Okay. Si on se pose la question de où est la physique sur ce diagramme, okay, la physique, c'est quelque chose qui a tendance à étudier des systèmes simples. Okay. Donc en physique, on est en bas de l'échelle de complexité ici. On a des systèmes très ordonnés, des systèmes très désordonnés. Et en pratique, de quoi s'agit-il? Quand on est très ordonné, on va avoir quelque chose comme un cristal, par exemple. J'ai pris aussi l'exemple ici d'une galaxie qui va être un peu moins ordonnée, mais qui a quand même tout un tas de symétrie. De l'autre côté, on va retrouver les gaz, les plasmas, etc. On est dans le monde complètement désordonné. Ce que je voudrais dire, une fois de plus, c'est que dans tous ces cas-là, on est à un niveau qui est relativement bas de complexité. Okay, relativement bas comparé à d'autres domaines. Si je prends le monde biologique, par exemple, c'est là où on trouve un niveau de complexité qui est quasiment sans limite. Okay. Donc, suivant l'endroit dans lequel on va être dans ce diagramme, on va aborder les études d'analyse de données de façon différente. Okay. Donc ça, c'est le premier point. Un autre point qui est intéressant maintenant, c'est okay, comment est-ce qu'on fait de la science? En fait, en science, on a une espèce de grammaire qui nous dit qu'il y a en gros deux séquences principales dans la façon dont on procède. Okay, la première séquence, c'est celle qui va être là-haut sur ce diagramme. On a des observations, on va essayer de les résumer de façon statistique. Et si on voit tout un tas de patterns, de corrélations, de groupes intéressants, on va commencer à peut-être à pouvoir formuler une théorie, d'avoir un modèle qui va expliquer ces données. Une fois qu'on a un modèle, une théorie, on entre dans la séquence numéro 2. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce modèle, cette théorie, pour faire des hypothèses, tester notre modèle, voir s'il s'applique toujours aux observations. Et si ce n'est pas le cas, on va pouvoir modifier notre théorie pour l'améliorer et pouvoir expliquer de plus en plus d'observations. Okay, un exemple typique en physique, c'est la théorie de la gravitation avec Newton. On commence ici. Il a d'abord observé ce qui se passe dans le ciel ou bien les arbres autour de lui avec des pommes qui tombent. Il lui a permis de développer une théorie de la gravitation. Et en testant cette théorie avec tout un tas d'observations, on a vu qu'elle avait ses limites, et c'est là où la relativité d'Einstein arrive et permet d'avoir une théorie plus générale. Okay, donc ça, c'est la séquence numéro 2. Et quand on est dans ce régime ici, c'est là qu'on parle de modèle. Okay, dans le régime d'en haut, on n'a pas de modèle encore. Okay, c'est ce qu'on appelle « data-driven analysis ». Très bien. Maintenant, essayons de penser les données de façon assez générale. Okay, on va mettre les données dans ce diagramme maintenant. Alors, cet axe ici, c'est un axe qui va nous dire à quel point on contrôle la variation dans les données. Okay, des données, des signaux, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses qui fluctuent. On a différentes sources de fluctuations et différents niveaux de fluctuations. Si on est tout en bas de l'échelle, où on contrôle vraiment bien les choses, okay, ça, c'est le régime des expériences. Okay, une expérience idéale, c'est une expérience qui va juste nous donner un bit d'information, okay, qui va répondre à une question en disant oui ou non, 0 ou 1, ça c'est l'expérience idéale. Okay. En pratique, il y a toujours un petit peu de bruit, il y a des fluctuations supplémentaires, et souvent on est amené dans un régime où il va falloir faire un petit peu de statistiques, souvent gaussiennes, qui va nous permettre d'extraire les paramètres qui nous intéressent. Si on monte un petit peu maintenant dans ce diagramme, on va avoir un autre type de données qui vont être plus complexes ici. Okay, c'est ce qu'on retrouve quand on a des sets de données scientifiques. Donc, ce sont des données qui ont été collectées dans des situations avec un certain niveau de contrôle. Mais l'idée ici, c'est d'acquérir tout un tas de données sans contrôler les choses au niveau d'une expérience. On veut vraiment réduire le plus possible l'information qui va en sortir. Donc ici, on va explorer des choses. On est dans un domaine qui est contrôlé. On va pouvoir faire tout un tas d'études statistiques, d'analyse de données, comme on va le voir bientôt. Mais ça reste quand même dans un cadre relativement contrôlé. Maintenant, si on prend la limite, on peut imaginer des données qui sont obtenues de façon complètement ouverte. Okay, ça va correspondre, par exemple, à tout un tas d'images qu'on peut trouver sur Internet. C'est un espèce de bucket dans lequel tout le monde peut mettre tout et n'importe quoi. Et donc c'est ce que j'appelle l'open collection. On a de plus en plus de sets de données comme ça. Avant Internet, ce genre de sets de données était quasiment inaccessible. Et donc ce que vous pouvez voir maintenant, c'est que suivant où on se place sur ce diagramme, la façon d'aborder le problème va également être très différente. Donc on peut faire deux choses principalement le long de cet axe. Si on est plutôt en bas ici, dans un régime très contrôlé, on va pouvoir tester des modèles, inférer des paramètres. Okay, généralement, quand on fait une expérience, c'est qu'on a déjà un modèle, on a quelque chose en tête qui est déjà bien construit. Et souvent, ce qu'on veut, c'est que pour un modèle donné, on veut estimer un ou plusieurs paramètres. Okay. Et plus on monte ici, en fait, moins on va avoir accès à des modèles précis, et plus on va pouvoir faire ce qui s'appelle de exploratory data analysis, donc on va explorer les données, des fois sans a priori, on n'a pas vraiment de modèle, ou on a des modèles qui sont très imprécis. En fait, on va pouvoir faire ces deux types d'analyses avec les données qui sont ici. Okay. Très bien. Donc, Stéphane Mala vous a montré comment faire quand on a un modèle pour extraire la valeur des paramètres qui vont représenter les données. Alors, ce que je vais faire ici, sans entrer trop dans les détails, c'est récapituler le schéma de pensée qu'il faut suivre pour partir des données et pour en extraire de l'information. Alors, je vais expliquer très rapidement toutes ces étapes, et ce que je voudrais, c'est que vous vous souveniez de la logique qui permet de passer de l'une à l'autre, okay, et qui nous donne en fait la façon de faire pour extraire de l'information des données. Une chose supplémentaire que je vais développer pendant cette présentation, c'est comment choisir un modèle. Okay. À un moment, il faut choisir un modèle, le modèle peut avoir une certaine taille. Cette taille, elle peut être décrite par un certain nombre de paramètres. Il peut y avoir aucun paramètre. C'est ce qui se passe quand on n'a pas de modèle, quand on fait de l'analyse, quand on explore les données sans a priori. On peut avoir quelques paramètres ou on peut en avoir beaucoup. Et ici, beaucoup, ça peut être 100, 1000, 1 million, 1 milliard. Okay, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le cas des réseaux de neurones. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se déplacer sur cet axe et on va voir qu'il va y avoir différents régimes pour aborder l'analyse des données. Donc voici le plan de cette présentation. Dans un premier temps, on va se déplacer le long de cet axe et de voir comment s'organisent les choses. Une fois qu'on aura fait ça, on va se poser la question, comment choisir un modèle? Et on va se déplacer le long de cet axe. Okay? Très bien. Ce qui nous a permis de comprendre tout ça, c'est du travail qui a été fait au cours du siècle qui vient de passer, avec des noms clés. Fisher nous a expliqué comment faire pour se déplacer le long de cet axe. Et d'autres personnes clés comme Shannon, James et Simon nous ont expliqué comment faire pour correctement développer des modèles le long de cet axe. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ces résultats clés sont des résultats qui sont assez récents. Okay, so Fisher, c'était il y a à peu près un siècle. Shannon, James et Simons, comme vous le voyez, ce n'est pas si vieux que ça. Ce sont des idées qui sont d'une certaine façon assez récentes dans l'histoire des sciences. Vous êtes ici, et suivant votre date de naissance, vous avez peut-être même très fortement eu un certain overlap avec un de ces pairs de l'étude statistique moderne des données. Shannon a vécu jusque dans les années 2000, par exemple. Okay, donc là, on parle vraiment de science qui est très, très récente. OK, alors, voyons voir comment ça se passe quand on veut se déplacer le long de cet axe. On commence avec des données, et ce qu'on veut faire en général, c'est décrire un système. Okay. Un système, il va être décrit par un certain nombre de variables. Il va falloir les définir d'abord. Okay, donc ce que je vais faire, c'est qu'on va choisir de caractériser un système par un certain nombre de variables, et ça, c'est un choix qui est fait par vous, okay, ou par ce qui est disponible dans les données. Ce choix va déterminer la dimensionnalité dans laquelle on va travailler, la résolution avec laquelle on va travailler, etc. Okay. Par exemple, je peux imaginer la situation où je vais essayer de décrire si les sièges de cette salle sont occupés par quelqu'un ou pas. Okay. Ce que je peux faire aussi, c'est de me dire, ok, je vais maintenant, au lieu de penser chaque siège, je vais penser chaque rangée. Okay. Donc là, je change ma variable, je change la résolution du problème. Okay. Donc ça, c'est un choix qu'on fait au début, ce qui va influencer toute la suite. Maintenant, si un siège est occupé par une personne, je peux me dire, ok, est-ce que c'est une personne qui a les cheveux courts, les cheveux longs, quel est l'âge de la personne, etc. Donc on peut y avoir tout un tas de propriétés qui fait que ces paramètres ici peuvent être des vecteurs qui vont décrire tout un tas de choses. Okay. Très souvent, quand on veut décrire un problème, il y a tout un tas de fluctuations auxquelles on n'a pas accès. Okay, donc on ne va pas pouvoir décrire les choses de façon exacte. Et ce qu'il va falloir faire, c'est avoir une approche probabilistique. Okay. Donc ce que je vais faire à la fin, c'est de décrire une distribution de probabilité P sur mon ensemble de variables XI. Okay. Très bien. Donc on s'intéresse à une description probabiliste des choses. Si je l'écris comme ça, okay, ce que ça veut dire ici, c'est que ce qu'on voudrait essayer de faire, c'est de caractériser la probabilité jointe de toutes ces variables. Okay, ce qui veut dire toutes les combinaisons possibles de toutes ces variables, et ça c'est un objet qui est généralement énorme, et très souvent, on n'a pas accès à tout ça. Okay. Mais on voudrait quand même essayer de décrire un système, donc on va essayer de faire du mieux qu'on peut. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que dans certains cas, on va utiliser des probabilités marginales, des probabilités conditionnelles, ou faire tout un tas d'approximations sur la précision de P ou la résolution avec laquelle on manipule nos variables. Okay, donc il y a tout un tas de choix à faire ici, c'est à vous de le faire si vous analysez des données. Très bien. Et maintenant, ce qu'on veut faire, c'est de pouvoir exprimer cette distribution P. Et pour ça, il va nous falloir une certaine structure ou un certain langage. Okay, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir utiliser un modèle. Okay, je vais en parler un petit peu plus après. Et donc, à ce niveau-là de l'analyse, on introduit un modèle. Très bien. Ce modèle, il dépend des données et il va dépendre d'un paramètre. Et c'est là où il faut faire attention et penser les choses de façon... Il faut faire attention à la façon dont on pense les choses. Les données, généralement, sont données, elles sont fixes. Okay, et ce qui va changer la variable du problème à ce niveau-là, ça va être le paramètre θ. Okay. Quand on pense les choses comme ça, donc c'est θ qui varie, les données sont fixes. Okay. Donc on a une nouvelle fonction, on a une probabilité de x sachant θ, mais si on se focalise sur θ, okay, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que θ n'est pas une probability distribution function, n'est pas une densité de probabilité, parce qu'on a normalisé notre P sur x, pas sur θ. Okay, donc cette fonction de θ ne suit pas les règles des probabilités, donc on ne peut pas l'appeler une probabilité si on se focalise sur θ. Okay. C'est pour ça que Fisher a introduit le terme de likelihood, vraisemblance en français. Okay. Donc si on pense cette fonction en tant que, avec une variable qui est θ, okay, on appelle ça likelihood. Okay. On ne peut plus appeler ça une probabilité parce que ce n'est pas normalisé correctement, etc. Okay. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut faire un petit changement de point de vue. Okay. Donc on parlait de probabilité et maintenant on parle de likelihood ou de vraisemblance. Très bien. Faut faire attention aussi, c'est différent de ce qu'on a dans le contexte bayésien, je ne vais pas en parler, où un P de θ sachant x correspond à quelque chose qui s'appelle le postérieur de θ, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, je voulais juste dire qu'il faut faire attention, ça n'est pas la même chose. Très bien. Donc, cette vraisemblance ou cette likelihood, elle va nous être très utile, Okay, donc je rappelle, les données sont fixes et c'est le paramètre maintenant qui va varier. Et suivant la valeur du paramètre, on va trouver qu'il va y avoir un comportement de cette fonction. On va pouvoir dire des choses à propos du maximum et de la région autour. Très bien. Donc, vous pensez très souvent à ça en termes d'estimation de paramètres. Et je voudrais vous rappeler qu'il y a deux régimes qui semblent différents, mais qui sont les mêmes au final. C'est que si ce sont des statisticiens qui parlent, et ils font ça depuis les années 50, ils vont parler d'optimisation de paramètres du modèle. Okay, mais aujourd'hui, si ce sont les informaticiens qui parlent de ce genre de choses, ils vont parler d'apprentissage par optimisation. C'est exactement la même chose. La seule différence, c'est que quand on est dans le cas des statisticiens, on pense plus à une ou deux variables. Quand on est dans le cas du machine learning ou des réseaux de neurones, il s'agit de millions de paramètres. Mais ce qu'on fait, c'est la même chose. OK. Donc, on veut manipuler cette vraisemblance ou cette likelihood. Maintenant, question. Pourquoi est-ce qu'on parle tout le temps de log likelihood? Okay. Pourquoi est-ce qu'on vient nous embêter avec ce log tout le temps? Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas juste la likelihood toute seule? Okay. Alors, suivant le type de bouquin qu'on ouvre, on trouve des raisons différentes. Dans les bouquins de maths, très souvent on lit « Ah, si on prend le log, ça va nous simplifier la vie, ça va transformer des produits en somme. » Okay. Mais si on réfléchit un petit peu à ça, maintenant, imaginons que je manipule ma vraisemblance, my likelihood, via un ordinateur, okay, j'écris ma fonction dans... j'écris mon code, que l'ordinateur fasse des sommes ou des produits, au final, moi, ça ne change absolument rien dans ma vie. Okay. Donc, il devrait y avoir une raison un peu plus fondamentale que ça. Si on ouvre des livres de physique, très souvent, on lit, OK, on va prendre le log de la likelihood parce qu'on manipule un système qui a un grand nombre de paramètres. Quand on a un grand nombre, on prend le log pour le ramener à un nombre plus petit. Okay. Donc, on voit que là, il y a une justification différente. Donc, il devrait y avoir une raison beaucoup plus fondamentale qui devrait tout expliquer. Qu'est-ce que c'est, au final? Cette raison fondamentale, c'est qu'en fait, on n'est jamais intéressé à la valeur absolue de la likelihood. Okay? Toute l'information qui nous intéresse, au final, elle va venir de changements relatifs de cette likelihood. Okay? Donc, la première chose ici dont il faut se souvenir, c'est que notre likelihood, notre vraisemblance, ça n'est pas une distribution de probabilité. Okay? Elle n'est pas normalisée. Okay, donc on voit déjà que sa normalisation, sa valeur absolue, ne va pas être quelque chose de très utile. La seule source d'information, ça va être le changement relatif. Okay, comment est-ce que la likelihood va changer par rapport à sa normalisation? Et ça, c'est quelque chose que je peux écrire tout simplement de cette forme, d log l. Okay. Donc au final, c'est vraiment ça la quantité fondamentale. Okay. C'est pour ça qu'on parle tout le temps de log likelihood, parce qu'au final, ce qui nous intéresse, c'est seulement le changement relatif de likelihood. Okay. Et pour que les choses soient simples quand on les écrit, il suffit de mettre un log devant, et en ce cas-là, on n'a plus à s'embêter avec cette normalisation. Okay. Donc, on va appeler ça un petit l, le log likelihood, et comme je l'ai dit, on ne s'intéresse qu'à des changements relatifs, donc on va s'intéresser à des dérivés de L. Okay, dérivée première, dérivée seconde. Et comme vous l'avez vu avec Stéphane Mala ces semaines précédentes, on peut au final estimer un paramètre en utilisant ce qui s'appelle le maximum likelihood estimation. Et le meilleur paramètre pour un modèle, ça va tout simplement être le paramètre qui va maximiser cette likelihood. Okay, cette log likelihood, pardon. Okay, parce que c'est vraiment ça la quantité fondamentale. Donc il suffit de prendre la première dérivée, de l'annuler. On a tout ce qui en a le meilleur paramètre. Et ensuite, il faut aller plus loin parce que le meilleur paramètre, ça ne nous suffit pas. Ce qu'il faut toujours, c'est une barre d'erreur. Si on veut estimer des paramètres, on veut un intervalle de confidence. Et cet intervalle de confidence, qui est aussi la quantité d'informations qu'on a sur ce paramètre, il est donné via la dérivée seconde. Okay, la dérivée seconde, comme vous pouvez le voir, ça va dépendre de la courbure de cette fonction. Si j'ai une fonction ici qui est très plate, okay, ça veut dire que mon modèle... mon modèle n'est pas sensible, que les données ne sont pas sensibles au modèle. Okay, je peux changer la valeur de mon paramètre θ, je vais avoir la même likelihood. Okay, ça veut dire que ce paramètre, les données ne sont pas informatives en ce qui concerne ce paramètre. Par contre, si j'ai quelque chose de très piqué, okay, ça veut dire que si je change un tout petit peu la valeur de ce paramètre, la likelihood va changer très vite. Ça veut dire qu'on est très sensible dans ce cas-là à ce paramètre. Okay. Et comme vous l'avez vu plus tôt ce matin, et sans rentrer dans les détails, Donc l'information de Fisher est définie en fonction des dérivées secondes de cette likelihood et c'est donné par le terme qui est ici. Voilà, donc ça c'est une petite overview, un résumé. Je vais donc rapidement rappeler les étapes qu'on a évoquées ici. On démarre de données, okay. On va choisir quelles sont les variables qu'on va manipuler, ça va définir la résolution à laquelle on va définir le problème, la dimensionnalité, etc. On veut une approche, une description qui va être probabiliste, parce qu'il y a tout un tas de fluctuations qu'on ne va jamais pouvoir caractériser de façon exacte. Pour exprimer cette distribution de probabilité P, donc le modèle, notre description des données, on va utiliser un modèle. Okay. Ce modèle il va avoir un ou plusieurs paramètres θ. Et ensuite, ce qu'on a vu, c'est que les données sont fixées, on va chercher à estimer la valeur de paramètre θ. Okay, donc c'est ça qui devient la variable. Et à partir du moment où θ est la variable, on parle de likelihood, on ne peut plus parler de probabilité. En pratique, on a vu que le log likelihood, c'est la quantité la plus fondamentale, parce qu'on n'est jamais intéressé à la valeur absolue de la likelihood, mais seulement à ses changements relatifs. Okay, changement relatif, c'est dL sur L, c'est la même chose que D log likelihood. Okay, donc pour simplifier tout ça, le log likelihood, on l'appelle petit l, et l'information est obtenue à la fin simplement en prenant les dérivées de ce petit l. La première dérivée nous donne le maximum, le best parameter, et la dérivée seconde nous donne l'intervalle de confidence, la barre d'erreur sur le paramètre. Et c'est vraiment ça qui nous donne la quantité d'information qu'on a sur ce paramètre. Ok ? Très bien, donc voilà les deux opérations clés qu'on fait à la fin. Maintenant, quels sont les problèmes, quelles sont les difficultés en pratique quand on fait ce genre de choses ? Alors, il y en a tout un tas. Trouver le minimum global d'un modèle, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Si vous avez des milliers, des millions de paramètres, okay, comme vous l'avez entendu auparavant, il va falloir effectuer des descentes de gradient dans des espaces qui sont énormes. Et trouver le minimum global, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas facile dans beaucoup de cas. Si on s'intéresse maintenant à l'intervalle de confiance, okay, si on veut estimer les barres d'erreur sur les paramètres, ça c'est quelque chose qui n'est aussi pas forcément évident, parce que pour faire ça, il va falloir estimer la covariance en fonction du nombre de paramètres. Et si on a n paramètres, et ben la covariance, pour pouvoir la calculer, il va falloir qu'on estime le modèle n fois au carré. Okay. Maintenant, si le modèle, si c'est juste une fonction, par exemple une gaussienne, okay, on peut faire ça des millions de fois, ce n'est pas trop un problème. Mais si maintenant notre modèle, ça va être par exemple une simulation numérique qui va prendre, disons, une heure pour tourner, okay, on ne va pas pouvoir évaluer notre modèle des millions de fois de façon aussi simple. Okay. Donc très souvent, il va y avoir des limites assez sérieuses ici pour pouvoir évaluer la covariance de la likelihood et d'estimer les barres d'erreur. Okay, et dans beaucoup de cas en science, on a toutes les données qu'il faut et la limite dans l'inférence de paramètres, elle est due à cette étape-là. On n'a pas assez de simulation de notre système pour pouvoir estimer les barres d'erreur correctement. Et une autre limite possible, je ne vais pas en parler dans les détails, c'est que la vraisemblance ou la likelihood pourrait avoir une forme qui soit non gaussienne autour du maximum. Et dans ce cas-là, simplement avoir une description à l'ordre 2 ne serait pas suffisant. Okay, je vais juste le mentionner sans rentrer dans les détails. Très bien. Donc j'espère que ça a pu clarifier un petit peu les idées sur l'estimation de paramètres. Maintenant, je vais parler d'une chose très importante dans cette séquence, c'est que se passe-t-il ici ? Okay, ici, tout d'un coup, on a un modèle qui doit venir de quelque part. Okay. Ce modèle, il peut vous être donné ou c'est aussi peut-être à vous de le choisir. Okay. Alors, que se passe-t-il ici ? Comme vous voyez, il y a ce θ qui tombe du ciel dans cette séquence, il arrive à ce moment-là. Comment est-ce qu'on va le définir ? Donc, on va avoir le choix, ici, de tout un tas de modèles. Et je vais les caractériser en trois groupes. On va avoir des modèles sans paramètres. En fait, j'utilise ça pour parler d'exploration des données, okay, c'est ce qu'on appelle le data-driven mode, où on va commencer à regarder les données sans avoir de modèle. On peut avoir des modèles qui ont quelques paramètres, okay, vous êtes très habitué à ces modèles, tout un tas de modèles analytiques que vous avez utilisés jusqu'à maintenant, et ensuite on peut avoir des modèles qui ont beaucoup de paramètres, des milliers, des millions, des milliards, il n'y a pas de limite, Ok, on va aussi discuter de ça. Alors, commençons au bas de l'échelle ici. Qu'est-ce qui se passe quand on a des données, qu'on va les analyser sans modèle? Donc ici, ce qu'on veut, c'est une description statistique de nos données avec quasiment aucun a priori. Okay, par exemple, voici des données, j'ai X1 et X2 qui sont distribuées comme ça. Je regarde mes données pour la première fois et je peux dire, ok, voilà, il y a un groupe, il y a une corrélation entre les deux, quand X1 est plus grand, X2 est plus grand, etc. etc. je peux commencer à former une description statistique de mes données sans avoir à décrire chaque point. Donc ce qu'on veut faire en général, quand on est dans un cas comme ça, c'est extraire ce qu'on appelle des summary statistics, des statistiques qui vont résumer toutes les variations dans ces données. Et il y a toute une boîte à outils disponible en statistiques. Je peux regarder si je vois des groupes, des clusters, je peux regarder s'il y a des corrélations, je peux regarder s'il y a des outliers, et tout un tas de choses. En général, en fait, on essaye d'extraire les tendances principales, les patterns clés qu'il y a dans les données. Et en manipulant toutes ces quantités statistiques, peut-être que ça va me permettre de formuler un modèle, okay, voire une théorie, okay, encore mieux. Si vous vous rappelez de la grammaire qu'on utilise en sciences, quand on n'a pas de modèle, on est en haut de ce diagramme. Okay, donc on va essayer de... Ce que j'appelle data model ici, c'est les statistiques des data. C'est de résumer les données le plus possible. Et c'est ça qui va peut-être nous amener vers un modèle quantitatif ou une théorie. Okay. On va monter maintenant un petit peu sur cet axe et voir ce qui se passe quand on a quelques paramètres. Okay. Quand on a quelques paramètres, okay, un paramètre ou deux pour mon modèle, très souvent on utilise des modèles auxquels vous êtes très habitués. Voici une liste ici. On retrouve la loi gaussienne, la distribution de Poisson, la place, vous avez vu toutes ces distributions, surtout si vous avez étudié un petit peu de physique. Okay, voilà un grand nombre de distributions qu'on trouve en physique. Donc ça sont des distributions typiquement qui ont un ou deux paramètres, des fois peut-être trois maximum, mais c'est tout. Okay, et la question, c'est d'où viennent ces distributions? Okay, pourquoi est-ce que je choisirais une de ces distributions et pas une autre? Okay. Quelle est l'origine de ces distributions? Je ne sais pas si vous vous êtes posé cette question. Très souvent, en tant qu'étudiant, ces distributions vous sont données, okay, et le but, c'est d'estimer les paramètres. Mais on peut aussi se poser la question de quelle est l'origine de toutes ces distributions. Alors ici, je vais vous parler d'un principe qui est absolument, absolument fondamental, qui est une des idées à la base des statistiques. C'est quelque chose qui nous vient de Edward Jaynes, 1957. Donc c'est vraiment quelque chose, une idée qui est assez récente dans l'histoire des sciences. Ce qui s'appelle le principe d'entropie maximum. Okay, maximum entropy principle, qui est extrêmement, extrêmement puissant et qui est à la base de plein, plein de choses. Alors, de quoi s'agit-il? Je vais essayer de le résumer en un slide. Quand vous voulez décrire quelque chose, j'espère que vous êtes d'accord avec moi, vous voulez utiliser l'information disponible. Est-ce que c'est tout? Non. Si vous voulez décrire un système, il faut aussi faire autre chose. C'est qu'il faut que la description ne dise pas des choses auxquelles vous n'avez pas accès. Okay, il faut pas prétendre quelque chose qui n'est pas disponible, qui n'est pas observable, etc. Okay, je vais essayer de redire ça de façon un petit peu différente. Okay, donc ce qu'il faut, c'est utiliser les contraintes auxquelles on a accès. Et ce qu'il faut, c'est maximiser l'ignorance de tout le reste. Pour dire « je ne connais rien d'autre ». Qu'est-ce que c'est que l'ignorance? C'est un concept qui va être introduit très bientôt par Stéphane Malat dans son cours. C'est quelque chose qui peut être quantifié par la notion d'entropie. Okay, donc ce qu'on veut faire ici, quand on veut décrire un système, c'est utiliser les contraintes qu'on a, et ensuite c'est maximiser l'entropie qui décrit ce système. Okay, je peux faire ça mathématiquement. Okay, des contraintes, je vais écrire ça de façon très générique ici, comme étant une moyenne d'une fonction de mes données. Okay, si je prends f étant l'identité, juste la moyenne de x, ça va être la moyenne de mes données, okay, qui va être égale à 0. F, si c'est l'identité moins x0, ça veut dire que la moyenne de mes données x, ce sera x0. Okay, donc je peux écrire ici tout un tas de contraintes sous forme de moments. À côté de ça, je vais avoir une distribution de probabilité pour x qui va être donnée par p de x. Voici l'entropie correspondante. Et donc, si je veux maximiser mon ignorance, je vais maximiser l'entropie. Okay. Si je combine ces deux choses, Okay, j'obtiens quelque chose qui s'appelle un problème d'optimisation avec une contrainte, okay, constraint optimization, et c'est quelque chose qui peut être résolu exactement, mathématiquement, avec une technique qui s'appelle la technique des multiplicateurs de Lagrange. Je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui, mais bon, vous pouvez trouver tout ça facilement. Et la résolution de ce problème via les multiplicateurs de Lagrange nous dit que la solution est donnée tout simplement par cette distribution ici. P de x, ça va être distribué comme exponentielle de moins lambda, lambda c'est une constante qu'on peut calculer, fois f de x. Et f de x, c'est la fameuse contrainte qu'on a au début. Okay. Donc c'est une idée qui est toute simple, c'est extrêmement puissant. Je vais vous donner quelques exemples ici. Okay, donc je résume. Si j'ai une contrainte qui est donnée par un moment et j'invoque le principe d'entropie maximum, je sais que la distribution qui va décrire mon système, c'est simplement exponentielle de moins lambda fois ma contrainte. Okay? Prenons quelques cas particuliers. Imaginons que x soit entre a et b et que je n'ai aucune contrainte. Okay? Dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais avoir ici? C'est f, c'est 0. Okay? Donc ça, ça peut simplement être une constante. Okay? Ça veut dire que ma distribution de probabilité, c'est une distribution plate, une constante, toutes les valeurs de x ont la même probabilité. Je continue. Maintenant, j'ai un cas où x, c'est une variable qui est positive, et je sais que la moyenne de x, c'est x0. Okay? Si j'utilise ma formule d'entropie maximum, je sais que la distribution qui va décrire ce phénomène, ça va être une exponentielle. Okay? Et c'est ce qu'on trouve, par exemple, quand on a des taux de désintégration, des attentes. Okay? Si on a un processus, il pleut, combien de temps faut attendre avant que la prochaine goutte d'eau va tomber sur le sol? Des choses comme ça. Tous ces processus sont définis par un taux d'arrivée, par exemple, et tous ces processus vont suivre une loi exponentielle. Okay? Parce que c'est la seule solution du problème. Si ça n'est pas ça, ça veut dire qu'on connaît autre chose sur le problème. Ça veut dire qu'il y a une autre contrainte qui est disponible. S'il n'y a pas d'autre contrainte, la seule loi qui va décrire ce problème, ça va être l'exponentielle. On continue. Celle-ci, elle paraît un peu plus compliquée, mais elle n'est pas si compliquée que ça. On a un x qui va être plus grand qu'une certaine valeur. Et là, ce qu'on a ici, c'est une contrainte qui s'appelle, c'est une moyenne géométrique. C'est, au lieu d'avoir une contrainte sur la moyenne de x, c'est la moyenne de log de x. Okay. Si on a une contrainte comme ça, okay, on a un log de x qu'on va mettre ici dans cette fonction, vous voyez que ce qu'on obtient, c'est tout simplement une loi de puissance. Okay. On continue. Si on a une contrainte maintenant qui est simplement due, qui est simplement la variance de notre variable aléatoire, la distribution qui va maximiser l'entropie, ça va être la distribution gaussienne. Okay, donc vous avez comme ça une façon de créer toutes les distributions qu'on rencontre en physique, en statistique, etc. Okay. Pour vous montrer que ça, c'est juste le point de départ de tout un tas de distributions qu'on peut expliquer. Maintenant, je vais pas utiliser l'équation, je vais juste utiliser une description sémantique des choses. Les contraintes, je vais commencer avec aucune contrainte, une moyenne géométrique ou une variance. Et la moyenne géométrique, juste un petit mot ici, c'est la même chose de dire. Donc la moyenne sur le log de x, c'est comme si j'avais une moyenne sur le produit de x, okay, de toutes les valeurs xi. Okay, donc la moyenne ici, c'est une somme, alors que cette moyenne, en fait, c'est une moyenne qui utilise un produit. Okay, c'est ça la différence des deux. Donc elles permettent de dériver toutes ces distributions. Et ensuite, en utilisant simplement des changements de variables ou des manipulations entre variables aléatoires, on peut, à partir de ça, définir tout un tas d'autres distributions. Et d'une certaine façon, toute la liste de distributions que je vous ai présentées au début peuvent se retrouver dans les branches d'un arbre qui commencerait avec ces quatre distributions ici. Okay. Par exemple, j'utilise la distribution gaussienne ici. Si je fais un changement de variable où je dis que ma variable aléatoire, maintenant je vais prendre le carré, okay, de cette variable aléatoire, j'obtiens la distribution qui s'appelle la distribution du chi 2 pour 1 degré de liberté, okay, degrees of freedom. Maintenant, si je fais la somme de 3 distribution, trois variables aléatoires qui au début sont gaussiennes, je prends les carrés, okay, j'obtiens une distribution du chi 2 qui a 3 degrés de liberté, et maintenant si je prends la racine carrée, j'obtiens la distribution de Maxwell-Boltzmann que vous avez vu en physique, qui décrit la distribution des vitesses dans un système. Si je pars de ma distribution exponentielle, donc c'est une distribution qui va me décrire le temps qu'il faut attendre pour que le prochain événement arrive, c'est une distribution qui n'a qu'un paramètre, okay, c'est la moyenne de combien de temps il faut attendre. Maintenant, je peux décrire ces distributions différemment en disant, OK, au lieu de voir quel temps il faut attendre pour le prochain événement, on va voir combien de temps il faut attendre pour avoir K événements, okay, pas seulement le prochain, mais K. On a maintenant une distribution qui a deux paramètres, et ces distributions, vous les trouvez dans les littératures, ce sont les distributions d'Erlang et la distribution de gamma. Okay. De façon similaire, si je me demande combien est-ce qu'il y aura d'événements dans un certain intervalle, j'obtiens la distribution de Poisson. Okay. Je pourrais continuer en ouvrant cet arbre de plus en plus et en introduisant toutes les distributions. Je ne vais pas le faire, mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, quand on est dans ce régime ici, on a juste quelques distributions, quelques paramètres, pardon. On a des modèles qui sont analytiques. Tous les modèles que vous avez rencontrés jusqu'à maintenant sont des modèles d'entropie maximum qu'on peut dériver très facilement à partir du principe que je vous ai montré. Okay. Très bien. On peut appliquer maintenant ce genre de modèle aux données. Je vais vous montrer quelques exemples en astrophysique. Voici l'image d'une galaxie à gauche. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va dire, OK, on va décrire cette galaxie avec une gaussienne en deux dimensions. Okay, donc ce que je peux faire, c'est que j'ai un modèle, la gaussienne, en deux dimensions. C'est un modèle qui va avoir besoin de décrire le centre de la gaussienne, ainsi que son orientation et son minor and major axis. Le français m'échappe des fois. Donc une fois qu'on a fait ça, on va utiliser la séquence d'inférence de paramètres que je vous ai montré tout à l'heure, qui nous est due, qui vient de Fisher. Okay, on va passer par une likelihood, on va estimer le maximum likelihood des paramètres de la gaussienne, et on va pouvoir ensuite resynthétiser la meilleure description de cet objet si on utilise juste une gaussienne en 2D. Okay, voilà à quoi ça ressemble. Et c'est quelque chose qu'on fait de façon très routinière en astronomie. Voici une image du ciel qui a été prise avec un télescope qui est sur Terre. Donc on observe à travers l'atmosphère. Il y a des turbulences dans l'atmosphère qui font que cette image n'est pas aussi précise qu'une image qu'on pourrait avoir, par exemple, avec le télescope Hubble, qui est au-dessus de l'atmosphère. Mais c'est une image typique en astronomie. Vous voyez ici, j'ai une collection d'objets. Ce que vous voyez ici, principalement, sont des galaxies. On ne voit pas trop les détails, on voit juste la forme en général. Et ce que je peux faire, c'est que pour chacun des objets, je vais appliquer l'opération que je vous ai montrée juste précédemment. Je vais décrire ces galaxies par, en gros, une gaussienne, avec juste un nombre limité de paramètres. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir faire de la synthèse et régénérer une nouvelle image juste à partir des paramètres que j'ai estimés. Et si je fais ça, voilà ce que j'obtiens. Okay. Là, maintenant, il s'agit d'un modèle okay, qui est basé sur toutes ces distributions statistiques pour lesquelles j'ai mesuré les best fit parameters. Donc, je vous remontre ici, ça, ce sont les données. Et ça, c'est l'image resynthétisée avec mon modèle. Okay, et comme vous pouvez le voir, la différence entre les deux est très difficile à percevoir, ce qui veut dire que mon modèle est très bon pour cette image, okay, et qu'il capture en gros quasiment toute l'information. Okay. Si on regarde les résidus, donc la différence entre les données et le modèle, voilà ce qu'on obtient, il ne reste quasiment rien. Okay, ce n'est pas parfait, comme vous pouvez le voir, autour de certains objets, il y reste quelques fluctuations, ce qui fait que mon modèle n'est pas assez suffisant, il n'est pas suffisamment complexe ou suffisamment riche pour décrire toutes ces données, mais on a fait déjà un boulot qui est plutôt bien. Donc on a réussi à résumer toute l'information qu'il y a dans cette image dans un petit nombre de paramètres pour chaque objet. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait en utilisant le principe de maximum likelihood dont j'ai parlé auparavant. Donc c'est très bien, donc on arrive à passer de l'image originale via une description statistique. Donc là, on va avoir une liste de paramètres, et à partir de cette liste de paramètres, je peux régénérer une nouvelle image. Tout va très bien. Les deux se ressemblent beaucoup. Maintenant, le challenge, c'est celui-ci. Comment faire quand j'ai des images comme celle-ci? Okay. On a tout un tas de données ou de simulations qu'on utilise en astronomie, là. Comment faire? Okay. On ne peut plus parler d'une collection d'objets pour lesquels je vais utiliser des modèles simples comme une gaussienne ou des distributions comme ça. Donc comment est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? Okay. On voudrait une distribution statistique de ces images, et si on rentre un petit peu plus dans les détails, ce qu'on voudrait faire, c'est garder la variation qui va être informative, et on veut s'affranchir de la variation qui ne va pas être informative. Donc dans ce cas-là, il s'agit de textures. Les textures sont des objets qui sont invariants par translation, okay, ou même par rotation pour certaines. Donc ce qu'on voudrait, c'est une distribution statistique qui soit aussi invariante par translation, par rotation. Si possible, on voudrait que cette distribution soit stable, c'est-à-dire que si on perturbe un petit peu une de ces images. On ne veut pas que la description change complètement, on ne veut pas que les valeurs des paramètres se mettent à sauter de façon considérable. Et si possible, on aimerait que cette description soit compacte. Okay, on ne voudrait pas trop de paramètres, parce que plus on a de paramètres, plus c'est dur. C'est quelque chose qui est fondamental en astronomie. Une des raisons pour lesquelles on veut faire du mieux possible pour essayer de décrire ces textures, c'est qu'il y a une texture qui est particulièrement importante, c'est la texture de l'univers lui-même. Okay, donc je vais vous montrer à quoi ressemble notre univers. Ce que vous voyez ici, c'est une distribution de galaxies, ce sont des vraies données. Chaque point sur cette image correspond à une galaxie, comme celle-ci par exemple. Et pour chaque point, on a l'image de la galaxie et on a aussi le spectre de la galaxie. Okay, et c'est en étudiant le spectre de la galaxie qu'on peut avoir des informations sur la composition chimique de cet objet, et en même temps, en mesurant le décalage vers le rouge, l'effet Doppler, on peut inférer la distance de cette galaxie. Okay, donc c'est comme ça qu'on a la position en trois dimensions de cet objet, et si je visualise la distribution de galaxies dans l'univers, donc ça c'est une tranche de l'univers, on est ici nous à gauche, okay, et ce qu'on voit ici, c'est à quoi ressemble l'univers quand on va de plus en plus profond, quand on s'éloigne de la Terre. Okay. Pour créer cette visualisation ici, il a fallu observer le ciel pendant 15 ans. Okay. Ce que je vous montre ici, c'est une visualisation de 15 ans d'observation. Ça vient d'un projet qui s'appelle le Sloan Digital Sky Survey, qui est une collaboration internationale qui est toujours en train d'observer le ciel aujourd'hui et qui a produit tout un tas de résultats fascinants en astrophysique. Ce que je vous montre ici, c'est un tout petit bout de la carte totale de l'univers. Okay, si vous voulez avoir une idée de la carte totale, aujourd'hui on l'a, voilà à quoi ça ressemble. On est tout en bas, ici, et quand on regarde le ciel, quand on regarde profondément dans l'univers, voici ce qu'on voit. Alors, je vais expliquer deux, trois petites choses ici. Donc, chaque point que vous voyez ici, donc, il s'agit d'une galaxie, donc il y a des millions de galaxies dans une image comme celle-ci. Les couleurs que vous voyez sont les couleurs des galaxies sur les images. Okay. Les galaxies spirales qui sont bleues, on les voit proches de nous. Vous savez peut-être qu'il y a des galaxies elliptiques qui ont tendance à être plutôt jaunes dans l'univers. Okay. Il y a ces deux types de galaxies, spirales et elliptiques. Donc c'est ce qu'on voit là. Et ce qui se passe après, en fait, les choses deviennent rouges. Ça, c'est dû à l'effet Doppler, au décalage vers le rouge. Le fait que l'univers soit en expansion, ça va tirer, étirer la longueur d'onde des photons. Et ce qui se passe, cette séquence ici, bleu vers rouge, est due à l'expansion de l'univers et l'effet Doppler. Okay. Ce que vous voyez, c'est que les choses redeviennent bleues ici. Okay, on a une autre séquence qui va du bleu vers le rouge. Là, à des distances aussi considérables que celle-ci, le télescope en question qui a pris ces données ne voit plus les galaxies, elles sont trop faibles. En fait, ce qu'on voit ici, ce sont des quasars. Et les quasars, ce sont des trous noirs qui sont très massifs au centre de galaxies. Et quand de la matière accrète est absorbée par le trou noir, il y a tout un tas de processus qui entrent en jeu, qui font que l'objet devient très brillant. Et on peut voir donc les quasars de l'autre côté de l'univers, c'est pour ça qu'on arrive à avoir des quasars partout ici. Et même si on arrive à une limite ici où les galaxies sont trop faibles, on continue à avoir des quasars quasiment jusqu'au bout. Okay. Et la séquence du bleu vers le rouge qu'on observe ici, c'est la même, c'est l'effet de décalage vers le rouge, le redshift qui est dû à l'expansion de l'univers. Okay, donc on a deux séquences, on voit les galaxies jusqu'ici et on voit les quasars jusque-là. Les chiffres qui sont ici, on ne peut pas bien lire malheureusement, mais il s'agit du temps. Quand on remonte dans le temps, quand on observe loin, étant donné que la lumière met un certain temps pour nous parvenir, on regarde dans le passé. Et donc là, il s'agit en milliards d'années, jusqu'à quelle époque on voit l'univers, et ça remonte jusqu'à à peu près 13,5 milliards d'années. Okay. Ce que vous voyez tout en haut ici, il s'agit du premier flash de lumière qu'on peut observer aujourd'hui. Donc ça, ce sont des vraies données aussi. Donc ça, ce sont des données ici qui ont été observées par le satellite européen Planck. C'est un flash de lumière qui n'a pas lieu dans le visible. Okay, les photons qui sont là, ils sont dans le domaine radio. Mais on peut convertir ces photons radio dans une image et voilà à quoi ça ressemblerait. Okay. Comme vous pouvez le voir, on a maintenant une carte qui est, que je trouve incroyable de l'univers où il manque juste une petite région ici. Il y a tout un tas de projets astronomiques qui sont en cours. Ils construisent des télescopes dédiés qui nous permettront d'avoir des données dans ce petit bout qui manque. Mais en grande partie, on a une très bonne couverture, on a un très bon échantillonnage de ce qui se passe dans l'univers depuis la Terre jusqu'à l'autre bout de l'univers observable. Donc, si on revient à notre histoire de texture, je vais rezoomer ici tout en bas de cette distribution. Voici le seul slide que j'ai en français pour cette présentation. Là, on est dans le cadre de la cosmologie. On ne s'intéresse pas aux propriétés d'une galaxie, on s'intéresse aux propriétés de l'univers en général. Okay. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qu'il faudrait, c'est on voudrait essayer d'exprimer cette texture. Okay, parce que cette texture, okay, elle est due à des fluctuations, elle contient des informations qui sont extrêmement précieuses. Okay. On voudrait savoir quelle est la densité de ces fluctuations, quelles sont leurs amplitudes, leurs formes, etc. Et tout ça, ça nous permet de décrire, ce qui en cosmologie est une des choses les plus importantes, les fameux paramètres cosmologiques. Okay. De la même façon, si on va dans le microscopique, le très petit, il y a tout un tas de paramètres clés, quelle est la masse du proton, de l'électron, etc. En cosmologie, il y a un certain nombre de paramètres clés qui régissent la dynamique de l'univers, okay, qui vont décrire ces fluctuations et qui vont décrire de quelle façon est-ce que l'univers va évoluer en fonction du temps. Donc ces fameux paramètres cosmologiques, d'une autre façon de le dire, c'est qu'en fait, on voudrait essayer de quantifier la texture de l'univers. Okay. Comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Il y a tout un tas de projets énormes, avec des ressources conséquentes qui sont en cours, pour essayer d'avoir les meilleures données possibles et au final estimer ces paramètres cosmologiques. Okay. Donc voilà quelques télescopes. Celui-ci donc, existe depuis un certain nombre d'années, un télescope japonais. Voilà un projet international qui va bientôt se mettre en route. Donc tout est construit. On va avoir les premières observations d'ici un an. Et voici deux télescopes qui sont des télescopes spatiaux. Le télescope Euclide, qui est un télescope européen, va être lancé d'ici 2 ans. Et un petit peu après, il y aura son cousin américain qui sera lancé aussi. Tous ces projets ont comme but, un de leurs buts, c'est donc de générer des données de meilleure qualité possible pour au final comprendre dans quel univers on vit. Et pour cela, il faut estimer ces fameux paramètres cosmologiques. Alors, comment ça marche en pratique? Une façon de le faire, c'est la suivante. À partir des images collectées, on peut mesurer les paramètres de toutes les galaxies. Et ensuite, on va utiliser un effet qui s'appelle l'effet de l'antigravitationnel, qui est dû au fait que la masse dans l'univers va influencer la propagation de la lumière. Et donc, suivant la distribution de masse qu'il y a entre ces galaxies et nous, okay, les galaxies vont être très légèrement déformées. Et en étudiant ces déformations, en fait, on peut inférer combien est-ce qu'il y a de masse entre ces galaxies et nous. On peut faire des cartes de masse. Et ce qui est fantastique, c'est qu'on est capable de faire des cartes qui ont toute la masse, pas seulement la masse visible. Et ce que vous voyez ici, c'est une carte qui est principalement due à la distribution de matière noire dans l'univers. Okay. Donc maintenant, en étudiant ce genre de cartes, en étudiant la texture de ces cartes, on peut inférer ces fameux paramètres cosmologiques. Et après avoir dépensé des centaines de millions d'euros et des milliards d'euros pour les télescopes spatiaux, après avoir travaillé pendant 10-15 ans pour tout calibrer, tout faire comme il faut, une fois qu'on a produit ces fameuses cartes de masse, le but, c'est d'extraire le maximum d'informations possibles pour estimer les paramètres cosmologiques. Donc, comment ça marche en pratique? En pratique, on va avoir une carte comme ça. Et la façon dont ce genre d'analyse a été faite jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est la suivante. C'est de dire qu'on va utiliser, pareil, des gaussiennes pour décrire ce qui se passe ici. Okay, donc là, on ne parle pas d'objets, on va parler de champs statistiques. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mesurer ce qui s'appelle le spectre de puissance d'une image comme ça. Et ça va nous permettre de compresser l'information à une dizaine de paramètres. Et à partir de ces 10 paramètres, je peux régénérer une nouvelle image avec une texture, si possible, similaire. Si je fais ça dans le cadre d'un spectre de puissance, donc qui décrit un champ gaussien, voilà le type d'image qu'on obtient. Okay, donc, je démarre d'ici, j'extrais de l'information avec ma distribution statistique. Et si je demande de régénérer une image à partir de cette distribution, voici ce que j'obtiens. Donc, on a extrait de l'information. Okay. Ces deux images ne sont pas complètement différentes, mais comme on peut le voir, on est loin d'avoir pu réexprimer toute la richesse de forme, toute la texture qu'il y a dans l'image originale. Ce qui veut dire que ce genre d'analyse a mis de côté, a ignoré tout un tas d'informations qui est très précieuse. Donc ça, c'était la façon dont on pouvait faire ce genre d'analyse jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Maintenant, la situation a changé. Vous êtes la génération maintenant qui vit dans tous ces réseaux de neurones et toute cette explosion d'estimateurs statistiques. Donc voyons ce qu'on peut faire aujourd'hui. Okay. Prenons cette image de départ. Et maintenant, je vais vous donner le choix. Voici six estimateurs statistiques différents qui vont permettre à chaque fois d'extraire de l'information statistique de cette image originale et de régénérer, donc de faire de la synthèse, de régénérer différents types de textures. Donc le but, ce n'est pas de reproduire l'image exacte, okay, on reproduit des réalisations différentes de textures, donc on s'intéresse juste à l'aspect statistique, okay, est-ce que cette texture correspond à celle-ci ou pas. Okay. Donc on a ces six estimateurs différents, et donc je vais vous laisser le choix, lequel de ces estimateurs aimeriez-vous utiliser si vous deviez estimer les paramètres cosmologiques. Okay. Comme vous pouvez le voir, okay, en bas, on n'a pas une expressivité qui est fantastique, on est loin de reproduire celles qui sont ici, et plus on monte, plus ça s'améliore. Okay. Donc vous pouvez choisir l'estimateur que vous voulez. Maintenant, je vais vous dire une chose, voilà. Si je prends l'estimateur qui est tout en haut, c'est un estimateur qui est un peu différent des autres. C'est un estimateur qui a été entraîné sur ImageNet, okay, qui est une base de données d'images dans laquelle on trouve des chats, des chiens, des voitures, des avions, etc. Okay. Donc, ayant cette information, est-ce que ça change votre choix? Okay. Je vous rappelle, le but ici, c'est d'estimer de façon la plus précise possible ces fameux paramètres cosmologiques qui décrivent l'univers. Sachant qu'on a passé une dizaine d'années à préparer l'expérience, à acquérir les données, on a dépensé des sommes folles. Est-ce qu'au final, on voudrait que notre estimation dépende d'un set de données d'apprentissage qui contient des chats et des chiens? Peut-être pas. En tout cas, je vais vous dire une chose, c'est que certains de mes collègues n'aiment pas du tout cette idée. Maintenant, je vais vous donner une autre information qui va être utile. On a ces six modèles ici. Vous pouvez en utiliser un parmi les six. Voici le nombre de paramètres qui correspondent à ces modèles. Okay. Est-ce que ça va changer votre choix dans cette sélection de modèles? Okay. Comme vous pouvez le voir, on a des ordres de grandeur ici. Ces estimateurs, okay, ils ont des noms. Je vais en décrire certains ici. Avant de rentrer dans les détails, je vais quand même mentionner quelque chose qui est important, et c'est un des quatre papiers que j'ai introduit au début, qui va nous permettre de nous guider pour savoir comment construire ce genre de modèle. On rentre dans un régime, okay, où le nombre de paramètres devient énorme. La question, c'est comment construire, comment structurer nos modèles pour pouvoir au mieux utiliser ces paramètres. Okay. C'est là où on va utiliser une idée qui vient de Herbert Simon, qui est extrêmement importante, qui dans son papier sur l'architecture de la complexité nous dit que le monde est structuré de façon hiérarchique. Okay. Ça, c'est une idée clé qui va être utilisée par la majorité de ces estimateurs ici. Comme vous le savez, les réseaux de neurones ont tout un tas de couches. Okay, et ces couches sont là pour décrire les données, pour décrire le monde de façon hiérarchique. C'est une façon qui est très puissante d'arriver à nos fins. Maintenant, essayons de comparer ces modèles. Okay, il y en a certains qui ont des avantages, des inconvénients. Si on commence en bas de l'échelle, les plus simples, qui n'utilisent que quelque chose comme 10 à 100 paramètres, le spectre de puissance et le bispectre, si on va plus dans les détails, ils sont à la base motivés par la physique, par la théorie des perturbations, mais très souvent, ils sont beaucoup trop limités. Okay, on voit que l'expressivité ici, elle reste assez basse, elle ne nous permet pas de reproduire les textures qu'on a dans les images de départ. Ce qu'on peut faire, c'est sauter à l'autre bout du spectre ici et utiliser les réseaux de neurones convolutionnels. Le problème, quand on est dans ce régime, je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est qu'on doit utiliser des training sets, et qu'en plus de ça, au final, on a un estimateur qu'on ne comprend pas très bien, comme à l'intérieur, on a des millions de paramètres, et comme vous avez dû l'entendre dire très souvent, beaucoup appellent ça une black box, une boîte noire. Okay, on ne sait pas vraiment ce qui se passe dedans. On sait qu'ils marchent bien, mais quelles sont leurs limites? Dans quel cas ils font des erreurs? Ils ne nous donnent pas la solution qu'on souhaite? On ne comprend pas ça très bien. Donc si on veut faire de la science et des estimations très précises, ça peut être un problème. Au milieu, on a tout un tas d'estimateurs qui sont apparus au cours de ces 10 dernières années et qui ont été créés à l'École normale, dans l'équipe de Stéphane Mala, que je vais appeler des réseaux mathématiques. Okay. Et ces réseaux mathématiques, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'en fait, ils vont avoir les avantages des estimateurs qu'on a en bas de l'échelle qui sont déterministiques. Okay. Ils n'ont pas besoin d'être entraînés sur des chats et des chiens. Et on va avoir l'expressivité qui nous est donnée par les convolutional neural nets. Okay, donc d'une certaine façon, c'est le meilleur des deux mondes, et on va pouvoir faire tout un tas de choses assez fantastiques avec. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour créer, pour construire un réseau mathématique? Okay. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut regarder les réseaux de neurones qui ont déjà été entraînés et voir ce qui se passe à l'intérieur. Si je prends un réseau, un CNN comme AlexNet, qui a été entraîné sur des données, sur des images, et je visualise les filtres qui ont été appris sur la première couche, voici ce qu'on observe. Okay. De façon similaire, si je prends tout un tas d'images naturelles et j'essaye de construire une représentation parsimonieuse, sparse representation de ces images. Okay, donc si je demande la construction d'une base parsimonieuse qui va me permettre de décrire ces images, voici ce que j'observe. Okay, et un résultat qui nous vient de la biologie, si on regarde les champs réceptifs qui sont dans les yeux des singes, okay, on observe exactement la même série de patterns. Donc ce qu'on voit ici, c'est que ces patterns ici, ces fluctuations qu'on a, sont des choses qui sont très génériques. Okay, donc si elles sont très génériques, elles sont probablement très utiles. Et donc, on a tout intérêt à les introduire directement dans notre réseau mathématique pour pouvoir extraire de l'information. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Si on regarde ça ici de façon un petit peu plus précise, et si on essaye d'ordonner toutes ces fluctuations, on se rend compte qu'on trouve quelque chose comme ça. Okay, on trouve des paires de fluctuations. Pour chacune d'entre elles, il y a une partie symétrique, une partie non symétrique. On peut les ordonner en fonction de leur taille, de leur échelle et de leur orientation. Okay, quand on a un système comme ça, mathématiquement, on peut exprimer ça en fonction avec des ondelettes. Okay, donc là, il s'agit d'ondelettes de Gabor, mais on peut prendre d'autres types d'ondelettes. Ça, c'est un détail qui est pas... Le type d'ondelette n'est pas, même pas le détail fondamental ici. Quand on a des ondelettes comme celle-ci, okay, on a ces fluctuations dans l'espace réel. Si on passe dans l'espace de Fourier, les choses se simplifient grandement. Ces ondelettes ici, cette famille d'ondelettes, c'est simplement une famille de gaussiennes, okay, qui ont été dilatées et qui ont été... décrite à différentes orientations. Donc tout cet ensemble qu'on a au début, okay, on peut au final le décrire mathématiquement de façon très simple, c'est simplement une famille d'ondelettes qui ont été dilatées et qui ont subi des rotations. Okay, donc on arrive à un objet mathématique qui est très simple. Okay, et donc on va pouvoir utiliser ça pour remplacer toutes les opérations faites par cette couche qui semble compliquée. Maintenant, comment est-ce qu'on l'applique en pratique? Ce que je vais montrer ici, il s'agit de la scattering transform qui a été introduite par Stéphane Malin en 2012. Je vais vous montrer un exemple d'application. Si je commence avec une image comme celle-ci, c'est mon image I0, je vais prendre une de ces ondelettes qui fait partie de ma famille d'ondelettes. Donc ces ondelettes sont complexes, il y a une partie réelle, une partie imaginaire. Je vais faire donc une convolution par cette ondelette complexe qui a ces deux composantes. Comme vous le savez, j'obtiens un résultat qui va être complexe. Et ce que je peux faire, c'est que je peux séparer l'amplitude, qui est montrée en grise ici, et les phases complexes, qui sont les fluctuations qui sont montrées derrière. Okay. Donc cette amplitude, donc c'est une nouvelle image, qui va s'appeler maintenant I1. Okay. Donc ce que j'ai ici, c'est l'image de départ, qui a été convoluée par cette première ondelette. Je prends le module, pour simplement avoir l'amplitude. Ça me forme cette première image. Et si je prends la moyenne sur toute cette image, j'obtiens un coefficient que je vais appeler S1. Okay. Donc j'ai extrait un peu d'informations de cette image. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux répéter cette opération. Okay. Au lieu de partir de I0, maintenant, je pars de I1 lui-même. Je répète cette opération avec une autre convolution à une autre échelle. Donc, je prends une autre ondelette et je répète cette opération. Donc, partant de cette image, je vais faire une convolution. Ensuite, je vais appliquer le module pour juste garder l'amplitude. Okay. Les phases, on les ignore. Et j'obtiens cette nouvelle image, je prends la moyenne de cette image, j'obtiens un coefficient S2. Okay, donc j'extrais de l'information ici. Comme vous le voyez, j'extrais de l'information de façon hiérarchique. Okay, je fais ça échelle après échelle. Et en faisant ça, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, c'est qu'on peut se demander qu'est-ce qu'on perd si on ignore les phases. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que les phases, elles sont ici pour encoder des petits déplacements locaux qui vont correspondre à des histoires de déformations locales. Okay. Et les déformations locales, ce sont des choses, si on arrive à s'en affranchir, ça permet d'avoir un estimateur qui est stable. Okay. Et donc, ça permet de réduire la quantité d'informations qu'on va propager le long de cet axe. Okay. Donc, ça nous permet d'extraire juste une petite partie de l'information qui nous intéresse et d'ignorer ce qui ne nous intéresse pas. Ce qui ne nous intéresse pas, ce sont des petites déformations possibles de façon locale. Donc, si on résume ici, ce qu'on a fait avec cet estimateur, c'est qu'on a pris une image, convolution, module, qui est une non-linéarité, ensuite on a pris une moyenne. Et on peut répéter cette opération, et on peut avoir une cascade de convolution, de non-linéarité et de moyenne. Okay, si vous avez utilisé des CNN dans votre vie jusqu'à maintenant, vous reconnaissez les opérations clés d'un convolutional neural network ici. Okay, c'est quelque chose qui fait des convolutions par des filtres. C'est un estimateur qui va appliquer une non-linéarité, le fameux ReLU, par exemple. Et ensuite, on va avoir une opération de pooling qui va nous synthétiser l'information à une certaine échelle, et c'est ce qui est fait ici par la moyenne. Okay, donc on a convolution, non-linéarité qui est le module complexe, et ensuite l'opération de pooling qui est faite par la moyenne. Et on répète ça sur plusieurs couches, plusieurs échelles, et donc ce que vous avez ici, c'est l'équivalent mathématique d'un CNN. Okay. Très intéressant. Et si on regarde ces propriétés, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Donc ici, on n'a pas besoin d'apprendre les filtres. C'est ça la grande différence entre un CNN et ce type de réseau mathématique, qui aussi est là. Tout est défini dès le départ. On n'a pas besoin d'apprendre les filtres. Les filtres sont des ondelettes. Et comme on l'a vu, les ondelettes, ce sont des objets qu'on retrouve de façon générique, qu'on regarde les premières couches d'un CNN, qu'on regarde les représentations parcimonieuses des images, ou qu'on regarde ce qui se passe dans le cortex visuel des mammifères. On retrouve ces ondelettes tout le temps. Donc autant les injecter directement dans notre estimateur plutôt que d'avoir à les apprendre. Sans entrer dans le détail, un estimateur comme celui-ci, il va être invariant par translation, et par rotation si on le souhaite, il va être stable à tout un tas de déformations. Pour les physiciens, ils seront contents, ça préserve l'énergie qu'il y a dans les données, et il est contracting, ce qui veut dire qu'il va pouvoir converger de façon satisfaisante. Il a été introduit en 2012, okay, donc ça fait 10 ans de cela, avec tout un tas de résultats intéressants dans le contexte de la classification. Donc il a été utilisé sur ImageNet avec de très bonnes performances. À l'époque, c'était aussi puissant, voire plus performant que les CNN de l'époque. Il a été utilisé pour classifier des types de textures différentes. Donc tout ça, c'est fantastique et c'est assez intéressant de voir que, enfin, il a eu tout un tas d'impacts en informatique. Mais ces idées ont mis beaucoup de temps pour arriver jusqu'aux scientifiques, aux physiciens, pour qu'elles soient utilisées dans des contextes comme la cosmologie. Okay, c'est seulement sur ces quelques dernières années que la communauté scientifique en physique a pris conscience de ce genre d'estimateurs, a commencé à les utiliser, avec tout un tas de résultats vraiment intéressants. Donc, si vous voulez en savoir plus, juste une petite note sur un article qu'on a créé récemment, qui est un guide qui permet de comprendre comment fonctionne la scattering transform. Les papiers de départ sont très mathématiques. Ce papier-là a été écrit d'une certaine façon par des physiciens, pour des physiciens ou pour des scientifiques en général, avec une approche différente des choses. Quel type de performance obtient-on avec un réseau mathématique? Okay. Ce que je vais vous montrer ici, c'est dans un cas de cosmologie. Okay. Donc là, il s'agit de recherche à la pointe des choses. Ce qu'on voit ici, c'est donc la puissance statistique d'un estimateur en fonction du niveau de bruit. Okay. Et je vais prendre quelques estimateurs qui sont dans cette liste. Je vais commencer avec le spectre de puissance qui est tout en bas. Okay. Donc si j'utilise le spectre de puissance pour extraire des données, pour extraire de l'information cosmologique de ces fameuses images que je vous ai montrées, en fonction du niveau de bruit, voici la puissance statistique de l'estimateur. Si au contraire j'utilise un CNN, okay, qui est tout là-haut, qui va manipuler 1 million de paramètres, voici la puissance statistique, donc elle est bien meilleure. Okay. Il faut surtout garder en tête qu'on a une échelle logarithmique ici. Mais comme vous vous souvenez, le problème c'est que c'est une boîte noire et qu'il est assez délicat d'utiliser un estimateur comme ça pour des applications cosmologiques. Si on utilise cette scattering transform, okay, donc ce réseau mathématique, ce qu'on voit c'est qu'on a une performance qui est quasiment aussi bonne que celle d'un CNN. Okay. Donc pour un exemple comme celui-ci, si on a ces cartes de masse qu'on manipule en cosmologie, ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas besoin d'utiliser un CNN avec des millions de paramètres. On peut utiliser un de ces estimateurs, ces fameux réseaux de neurones mathématiques, et on a au final la même puissance statistique. Okay, donc on est capable d'extraire de l'information avec la même performance qu'un CNN. Mais on n'a pas besoin de manipuler des millions de paramètres, on peut juste travailler avec une centaine de paramètres en gros. Okay. Donc très intéressant. pour finir, juste quelques mots sur l'approche en général. Donc, ce qui est nouveau aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas il y a 10-20 ans, c'est qu'on a accès à tous ces modèles. Okay, il y a 10-20 ans, la science se faisait surtout au bas de cette échelle. Okay, les autres estimateurs, tout simplement, n'existaient pas. Okay, donc, on n'avait pas trop le choix. Maintenant, dans votre cas, vous avez le choix. La question, c'est quel estimateur considérer. Donc, en général, ce qu'on veut, c'est maximiser l'expressivité d'un estimateur. Okay, plus il est fidèle aux images de départ, et mieux ça va être. Le problème, c'est que si on veut faire de l'inférence, il faut aussi se poser d'autres questions. Okay, est-ce que j'ai envie de manipuler 10 000, 100 000 paramètres? Et si je veux estimer mes barres d'erreur sur mes paramètres, il va falloir que je calcule des matrices de covariance. Donc, il va falloir que je manipule n carré quand on arrive à des nombres ici comme ceci, n carré, maintenant ça devient encore plus grand. Donc en fait, il y a une limite qui va faire qu'on va vouloir minimiser en même temps le nombre de paramètres. Okay, donc on a cette tension entre les deux. On veut la plus grande expressivité possible, on veut minimiser le nombre de paramètres. Donc ce que ça veut dire, ça veut dire que pour un problème donné, okay, il va exister un optimum qui va se situer entre les deux. Okay, l'optimum, ça va être à vous d'essayer d'avoir une certaine notion pour savoir où il va se situer sur cet axe, donc ça va dépendre des données. Okay, plus on a des données qui vont être complexes, plus on va vouloir monter ici. Okay, jusqu'où est-ce qu'on peut monter, ça va dépendre de nos capacités à faire tourner notre modèle tout un tas de fois pour pouvoir calculer ces matrices de covariance, l'information de Fisher, les barres d'erreur sur mes paramètres. Okay, donc il n'y a pas de réponse unique à tout ça. Ça va être à vous de décider où se placer sur cet axe. Ça va dépendre de vos ressources, ça va dépendre de la taille des données, etc. Mais ça, c'est une nouvelle question qui ne se posait pas il y a 20 ans, okay, ou il y a 10 ans, dans tout un nombre de cas. Okay, cette émergence de toute cette série de modèles, maintenant on a un axe quasiment continu ici, donc c'est une nouvelle opportunité. Pour l'utiliser de meilleure façon, il va falloir se poser quelques questions sur ce qu'on est capable de faire au final. Voilà. Je vais résumer tout ça avec cette fameuse carte que je vous ai montrée auparavant. Dans le cadre général, on souhaite analyser des données, on va extraire l'information de ces données. On a vu que donc, Fisher nous a montré le chemin, comment faire pour y arriver. Une nouvelle question qui se pose aujourd'hui, c'est que quand on suit cet axe, on doit utiliser un modèle. Okay, je vous ai montré qu'il y a différents types d'approches à ce niveau-là. Ça, on n'utilise pas de modèle du tout et on fait ce qui s'appelle Exploratory Data Analysis. On va essayer d'estimer des statistiques informatives sur les données sans a priori, sans modèle. Donc là, on n'a aucun paramètre, on n'a pas de questions à se poser. Maintenant, si on a accès à des modèles, on a vu que, suivant le régime dans lequel on est, si on manipule des modèles qui ont quelques paramètres, okay, on a toute une famille de modèles analytiques que vous avez manipulé jusqu'à aujourd'hui. Je vous ai montré d'où viennent ces modèles. Okay, ils viennent du principe de maximum entropy, avec quelques contraintes, okay, des contraintes toutes simples sur les moyennes, les variances, les moyennes géométriques, etc. Et maintenant, si on veut aller au-delà de ce régime, on a un nouveau monde, okay, qui n'existait pas avant l'apparition des réseaux de neurones. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que le nombre de paramètres est quelque chose qui peut être un nombre astronomique. Comme je vous ai montré, ça peut être 100, 1000, 1 million, 1 milliard. Okay, quel type de modèle utiliser, quel modèle utiliser, ça va être à vous de choisir, en gardant en tête les buts de l'analyse et en gardant en tête le fait que si on veut estimer les paramètres et leurs barres d'erreur, il va falloir mesurer des matrices de covariance. Et donc le nombre de calculs, ça ne va pas être n, le nombre de paramètres, mais n carré. Et c'est ça qui va nous limiter dans certains cas. Voilà. Donc, je vais m'arrêter ici. Voici la nouvelle carte donc, qui va vous permettre d'analyser les données. Et le message, une fois de plus, c'est qu'on a appris, il y a à peu près un siècle, comment se déplacer le long de cet axe. Et c'est maintenant seulement sur les 10-20 dernières années qu'on est en train de découvrir toutes les possibilités qu'il y a si on monte le long de cet axe ici. Et qu'est-ce qui se passe quand on commence à manipuler des milliers, des millions, des milliards de paramètres. Voilà, je vais m'arrêter ici et je vais répondre aux questions. Merci.